Chapitre 15. Étrange rencontre que fit Don Quichotte. Je pense, monsieur, dit Sancho, que cette suite de malheurs que nous venons d'éprouver est la punition d'un péché que vous avez commis contre la chevalerie. Vous aviez juré de ne point manger de pain sur table avant d'avoir conquis la mets de Malandrin ou de Membrin, je ne sais plus bien le nom de ce mort, et vous n'avez pas tenu ce serment. « Tu as grande raison, » répondit Don Quichotte. « Je l'avais oublié tout à fait. Et tu peux être certain que c'est pour ne me l'avoir pas rappelé que l'on t'a berné dans l'hôtellerie. Mais avant peu, mon ami, je réparerai ma faute. Je vous en serai fort obligé pour mon compte, puisque les fantômes s'en prennent à moi, qui n'ai cependant rien juré. » En causant ainsi de choses et d'autres, la nuit les surprit au milieu du grand chemin. La faim les pressait. Ils n'avaient point de bisac, ne découvraient point de maison, et les ténèbres devenaient à chaque instant plus épaisses. Ils marchaient toujours, espérant que la grande route les conduirait à quelque village. Lorsqu'ils virent venir à eux une grande quantité de lumière qui ressemblait d'abord à deux faux follets. Sancho pensa s'évanouir de peur. Don Quichotte lui-même fut troublé. L'un tira fortement le licou de son âne, l'autre retint les rênes de son cheval. Ils regardaient attentivement et cherchaient à deviner ce que cela pouvait être. Mais les lumières en approchant devenaient plus grandes, plus vives, et leur nombre semblait augmenter. Sancho se mit à trembler de tous ses membres. Les cheveux de Don Quichotte se dressaient sur sa tête. Cependant, il se ranime. « Ami, dit-il. Voici sans doute une épouvantable aventure pour laquelle j'aurai besoin de ma valeur tout entière. » C'est fait de moi, répondit Sancho. Si c'est encore une aventure de fantôme, comme elle en a toute la mine, eh bien, mon bon Dieu, où seront les côtes qui pourront y suffire? Rassure-toi, mon fils, ne crains rien. Je ne souffrirai pas qu'il t'en coûte un seul cheveu. Et si l'on vous enchante encore comme la dernière fois, à quoi servira votre vaillance? Du courage, te dis-je, du courage. Tu vas voir si ton maître en manque. Ah, monsieur, je ne demande pas mieux que vous en ayez. À ces mots, ils se détournent un peu du chemin pour examiner de nouveau ce que pouvaient être ces lumières. Ils distinguèrent bientôt de grandes figures blanches, dont la seule vue fit claquer les dents de Sancho, comme s'il avait eu le frisson de la fièvre. Les figures blanches, au nombre de 20 à peu près, étaient toutes à cheval, portant des torches à la main, et marmottaient certaines paroles d'une voix basse et sépulcrale. Derrière eux venait une litière noire, suivie de 6 cavaliers couverts de crêpes, depuis leurs chapeaux jusqu'aux pieds de leurs mules. Ce spectacle extraordinaire, au milieu de la nuit, dans un lieu désert, était capable d'effrayer un homme plus hardi que Sancho. Aussi ne respirait-il plus. Son maître lui-même n'était pas trop rassuré. Mais ses livres vinrent à son secours. Il s'imagina que cette litière renfermait quelques chevaliers blessés ou tués en trahison, dont il devait venger la mort. Sans autre réflexion, il met sa lance en arrêt, va se planter au milieu du chemin vis-à-vis des figures blanches et leur crie d'une voix terrible. « Arrêtez, qui que vous soyez, et dites-moi qui vous êtes, où vous allez, d'où vous venez, qui vous conduisez dans cette litière. Je soupçonne que vous êtes coupable ou victime de quelque crime. Je dois le savoir afin de vous venger ou de vous punir. » Un des hommes blancs répondit, « Nous sommes pressés et l'auberge est loin. Nous n'avons pas le temps de satisfaire votre extrême curiosité. » « Ayez le temps d'être plus poli, » répondit Don Quichotte en colère, « ou préparez-vous au combat. » En prononçant ces paroles, il saisit fortement par la bride la mule de l'homme blanc. La mule était ombrageuse. Elle se cabre et se renverse sur son maître. Don Quichotte, sans y prendre garde, se précipite sur un des cavaliers vêtus de deuil qu'il jette par terre d'un coup de lance. De là, il court à un autre. Et la prestesse, la vigueur avec laquelle il les attaquait avait passé jusqu'à Rocinante, qui, dans ce moment, semblait avoir des ailes. Tous ces pauvres gens, sans armes, peu exercés à se battre, ne tardent pas à prendre la fuite et se dispersent dans la campagne, où, courant avec leurs flambeaux, ils ressemblaient à une troupe de masques qui enterrent le carnaval. Le premier homme tombé était encore sous la mule, et son flambeau par terre brûlait près de lui. Don Quichotte, vainqueur, vint lui mettre sa lance au visage en lui criant de se rendre. « Hélas, répondit le malheureux, je suis déjà tout rendu, puisque je ne puis bouger, et je crains d'avoir la jambe cassée. Ne me tuez pas si vous êtes chrétien, vous commettriez un grand sacrilège, attendu que je suis tonsuré. »« Tonsuré, reprit notre chevalier. « Puisque vous êtes homme d'église, que venez-vous faire ici ?»« Pas grand-chose de bon, grâce à vous. Je m'appelle Alonso Lopez et j'accompagnais avec 11 ecclésiastiques mes confrères que vous venez de mettre en fuite le corps d'un vieux gentilhomme mort à Baeca qui a demandé d'être enterré à Ségovie, à sa patrie. « C'est fort bien, mais qui a tué ce gentilhomme ?»«
Qui l'a tué ?»«
Oui, sans doute. C'est là ce qui m'importe de savoir. » »«
Ma foi !»
C'est Dieu qui l'a tué avec une fièvre maligne. Cela étant, je ne me suis donc pas obligé de venger sa mort.
Je ne le pense pas, monsieur.
C'est qu'il est bon que vous sachiez que je m'appelle Don Quichotte de la Manche, que je suis chevalier errant et que mon devoir est d'aller par le monde, réparant les injustices et redressant les torts. Je voudrais bien, monsieur le chevalier, que vous puissiez redresser ma jambe. C'est un malheur, monsieur, le tonsuré Alonso Lopez. Mais aussi, pourquoi vous en allez-vous, la nuit, couvert de crêpes, de surplis, avec des flambeaux, dans un équipage de l'autre monde, qui devait avec raison me faire croire que vous étiez des suppôts de Satan ? Oh, je sens bien que c'est ma faute. Mais aidez-moi, par charité, à me relever de dessous cette mule qui tient ma jambe froissée entre la selle et l'étrier. Aussitôt, Don Quichotte appelle Sancho. Sancho ne se pressait pas d'arriver, parce qu'il était occupé à débarrasser un mulet chargé de vivres que ces messieurs menaient avec eux. Le prévoyant écuyer était parvenu à faire de sa capote une espèce de bissac qu'il farcit des meilleures provisions. Ensuite, il attacha la capote sur son âne, et quand tout cela fut fait, il arriva près de son maître pour l'aider à relever le malheureux tonsuré. Ils parvinrent, non sans peine, à le remettre sur sa mule, lui rendirent son flambeau, et Don Quichotte lui conseilla de rejoindre ses compagnons, en l'assurant de nouveau qu'il n'avait pu s'empêcher de faire ce qu'il avait fait. Sancho le retint pour lui dire encore « Si par hasard vos messieurs sont curieux de savoir quelle est la personne qui les a si bien étriés, vous pouvez leur apprendre que c'est le fameux Don Quichotte, autrement dit le chevalier de la triste figure. » Le pauvre tonsuré partit. Notre héros pria Sancho de lui expliquer pourquoi il lui avait donné ce surnom. « Ma foi, répondit l'écuyer, c'est qu'en vous considérant à la lueur de cette torche, soit à cause de la fatigue que vous avez éprouvée, soit à cause du coup de pierre que vous avez reçu, je vous ai trouvé la plus triste figure que l'on puisse voir au monde. » « Ce n'est pas cela, mon ami. C'est que le sage qui doit écrire l'histoire de mes exploits a sans doute jugé nécessaire que j'ai aussi un surnom, comme les chevaliers du temps passé, dont l'un s'appelait le chevalier de la licorne, du phénix, du griffon, de la mort. C'était sous ce nom et par cet emblème qu'ils étaient connus dans l'univers. Je regarde comme une inspiration l'idée qui t'est venue. Je prétends m'appeler ainsi désormais. » Avant de quitter ce lieu, notre héros eut la fantaisie de retourner sur ses pas et de visiter le cercueil qui était dans la litière pour s'assurer si le gentilhomme était bien mort. « Monsieur, lui dit Sancho, voici la première aventure dont nous nous tirons bien portant. N'allons pas gâter nos affaires. Ces gens-là n'ont qu'à s'apercevoir que c'est un seul homme qui les a battus, ils voudront prendre leur revanche. Et vous savez, comme moi, tout ce qui peut en arriver. Croyez-moi, « gagnons la montagne. Nous avons faim, j'ai de quoi manger. Laissons aller, comme on dit, le mort en terre et le vivant à table. » Aussitôt, il fait marcher son âne devant lui. Don Quichotte, trouvant qu'il avait raison, le suivit sans répliquer. Ils s'enfoncèrent entre deux collines et parvinrent à une vallée profonde, mis sur l'herbe ses provisions. Là, étendus tous les deux, sans autre sauce que leur appétit, ils déjeunèrent, dînèrent, soupèrent tout à la fois, avec d'excellentes viandes froides, destinées à messieurs les ecclésiastiques qui d'ordinaire savent bien se pourvoir.
Mais un grand malheur, dont Sancho surtout ne pouvait se consoler, c'est qu'ils n'avaient point de vin, ni même d'eau, pour apaiser leur soif.